Comme notre frère Alain l'a mentionné dans sa prière, nous avons une pensée pour Jean-Daniel Perron en Suisse qui passe par une épreuve avec la perte de son épouse et puis aussi Laurent Ladouce, notre ami aussi. Vous vous rappelez, c'est lui qui avait interprété notre frère Osborne ici quand il était venu à la chapelle et voilà, il a perdu son épouse aussi. Mais que Dieu les bénisse et nous pensons à eux. Je vais descendre en Suisse pour l'enterrement de Nicole Perron. On va partir avec la Michou certainement mardi, mais on n'est pas sûr encore. On va voir quand c'est qu'on va partir. Bon, ben écoutez, on va ouvrir la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. C'est Jésus qui parle, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. » le meilleur modèle que nous avons, le meilleur modèle humain que nous avons, qui connaissait le Père, c'est Jésus-Christ lui-même, ça c'est clair. Et nous connaissons parce que nous avons premièrement des Écritures qui rendent témoignage de lui, son esprit aussi qui nous parle, mais sans les Écritures, que connaîtrions-nous, n'est-ce pas? Quand il était sur terre, il nous dit que c'est pour venir faire la volonté de son Père qu'il est venu. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner, mais moi je crois que cette volonté lui était révélée de temps en temps. Ah! Il dit, n'est-ce pas? Pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait, ni les anges, ni même le Fils, Dieu seul le sait. N'est-ce pas? Et il y avait des moments où Dieu lui révélait des choses précises, mais d'autres choses, Dieu ne lui révélait pas. Et tout au long de son ministère, Jésus nous a donné la preuve qu'il connaissait le Père, il connaissait Dieu. Il lui était entièrement consacré, on voit ça quand on lit, n'est-ce pas? Il était complètement solidaire avec son Père. Il était totalement loyal envers Dieu, son Père. Entre lui et son Père, il y avait une telle harmonie qu'un jour, il s'était crié « Mon Père et moi, nous sommes un. Je suis descendu des cieux pour faire sa volonté. » On trouve ça dans Jean 10, 30. Aujourd'hui, on voit des gens, et même des religieux. Il y a un livre qui est sorti, c'est un pasteur qui se vante d'être athée, n'est-ce pas? Il est sorti, on le trouve partout, à la FNAC. Aujourd'hui, on voit des gens qui se vantent de ne pas croire en Dieu et ils présentent leur mécréance comme un insigne d'honneur. Je ne sais pas si ça se dit mécréance, hein. Bon, je l'invente. On dit un mécréant, une mécréante, mais mécréance, je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire, mais je l'invente. On comprend ce que ça veut dire, hein. Certains sont fiers, n'est-ce pas, de ne pas croire en Dieu. Ils nous présentent donc leur mécréance comme une marque d'intellectualisme, carrément. C'est vrai, mes frères et sœurs, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est vital de savoir qu'il y a un Dieu. C'est vital de savoir que nous avons un Sauveur. C'est vital de connaître qu'il y a une éternité, de savoir que tout homme a une immortalité imminente. On n'est pas, vous voyez, encore là, deux personnes que nous connaissons et puis qui disparaissent. Et ça, c'est tout le temps. Et il y a tous les jours des gens qui disparaissent. Et il y aura un jugement. Et nous avons tous une responsabilité personnelle. Et quand on se trouvera devant le trône, eh ben, on ne pourra pas dire, mais moi j'étais. Vous vous rappelez, Mme Osborne disait, quand j'arriverai devant le Seigneur, je ne pourrai pas dire, j'étais la femme de T.L. Osborne. Ça n'a aucune importance. Elle était rigolote comme elle exprimait les choses. Moi, je dois faire quelque chose aussi. C'est vital. C'est vital de savoir qu'il y a un plan pour notre vie, savoir ce qu'on a à faire, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit être. Il est vital de savoir que nous avons un objectif à atteindre sur cette terre, ici-bas. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire là, mes frères et sœurs, nous le savons. Et si nous le savons, eh bien, nous savons qu'il y a. Nous savons ce qui est vraiment important sur la terre. Si nous savons ces choses, nous savons ce qui est vraiment important. Ça nous vient à l'esprit, ce qui est vraiment important. Nous savons comment aborder la vie. Nous savons comment regarder ce qui nous entoure, appréhender les choses. Nous savons. Et mes frères et sœurs, pour nous, dans la communauté du Château Sanctuary, il n'y a aucun doute sur la réalité de Dieu. Amen. Mais que faisons-nous de cette connaissance? C'est ça qui est important. Depuis 43 ans de vie dans les milieux évangéliques, je peux témoigner de cela, c'est que beaucoup croient et témoignent, disant que Dieu est réel, mais beaucoup ne vivent pas comme s'ils possédaient réellement cette connaissance. Beaucoup n'agissent pas comme s'ils connaissaient Dieu. Alors Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai compris que croire et savoir, c'est très différent que de connaître Dieu. Jean, il nous place devant nos responsabilités. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons quoi? Que nous l'avons connu. Terrible, hein? Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Par quoi nous savons que nous l'avons connu? Si nous gardons ses commandements. Terrible. Pas question d'avoir une révélation. Non, 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 non. Si nous gardons ses commandements, alors on sait, voilà, je l'ai vraiment connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Voilà ce qu'il dit. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui et par là, nous savons que nous sommes en lui. Par ça, nous savons. Par là, nous savons, celui qui garde sa parole. Par là, il sait, parce qu'il aime sa parole, alors il sait que l'amour de Dieu est parfait en lui et qu'il est vraiment. J'ai pas l'assurance de mon salut. Il faut être clair. Il faut sonder les Écritures pour savoir d'où nous vient la croyance, le savoir et la connaissance. Et dans les trois, c'est la connaissance qui est le numéro un. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. C'est Jean-là qui parle. Il dit ça dans 1 Jean 2, 3, 6. Alors que tirer de ça? Ben, on peut tirer beaucoup de choses de tout ça, mais je voudrais dire que simplement si nous gardons ces commandements, nous apprenons que nous connaissons Dieu. C'est alors que notre salut qui vient uniquement de Jésus-Christ, parce qu'il a fait l'expiation en notre faveur, c'est vrai. Mais nous savons que notre expiation, qui a été décidée avec Dieu autrefois, dans notre passé éternel, nous savons qu'elle est une réalité. On n'est pas en train de s'imaginer que Jésus a porté nos péchés sur la croix. On n'est pas en train de se monter le bourrichon, comme on dit en Suisse. C'est-à-dire en train de s'imaginer des trucs qui ne sont pas. Le plan a été fait dans notre passé éternel et nous sommes ici-bas pour manifester ce plan qui a été fait dans la réalité matérielle, ici-bas, dans ce système créé, par notre façon de vivre fidèlement les commandements de Dieu qui sont là. Alors, notre plan de salut, il comportait, il est vrai, la croix de Jésus, son sacrifice, le sacrifice parfait de Jésus-Christ, mais aussi le fait que nous gardions ses commandements, non? Ça, c'est la révélation de Wesley. Quand Luther est arrivé avec la révélation du salut par la foi, c'est une grande libération, parce que il y avait dans l'Église cette croyance qu'on peut payer notre salut par les bonnes œuvres. Et Luther a dit non, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais quelques temps plus tard, Wesley est arrivé et a dit « Oui, mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons la foi que Jésus-Christ nous a sauvés, mais parce que nous avons la foi qu'il nous a sauvés, alors nous obéissons à ses commandements. Et l'apôtre Jean met le point final en disant « Et si nous gardons ses commandements, nous savons que ce sacrifice, il a réellement été fait pour nous. » Waouh ! Vous voyez le plan parfait ? Comment pouvons-nous imaginer posséder tout ce qu'il possède si nous n'avons pas développé son caractère ici-bas sur la terre? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on va pouvoir être ses héritiers de tout ce qu'il a promis si nous ne développons pas ici-bas un caractère divin? Alors c'est vrai, la Bible dit, mais Dieu dit. Il nous invite, dans la Bible, à marcher dans les pas de Jésus, dans les pas de Jésus qui était l'humain parfait, qui connaissait Dieu et qui le prouvait. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est donc par Jésus que nous connaissons Dieu en observant Jésus dans ce qu'il est écrit. Et il révèle de Dieu ce que nous devons connaître de Dieu tant que nous sommes dans ce corps mortel, parce qu'il y a d'autres choses encore qui concernent Dieu. Mais ça, nous connaîtrons quand nous le verrons face à face. Pour le moment, nous connaissons uniquement que ce que Dieu veut que nous connaissions. Et nous le connaissons par ce qui est écrit. Si vous gardez ma parole, le plan de Dieu, il est dans ce qui est écrit. Vous savez, le livre de Enoch, que je viens de terminer, là, j'en voyais le devis avant-hier. Je vais recevoir ça, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Dans le livre d'Enoch, qui était écrit il y a 5300 ans, il y a des prophéties qui concernent absolument toute l'histoire du monde, dans les grands traits. N'est-ce pas, Simone qui l'a lu et corrigé, je sais pas combien de fois elle l'a lu, elle peut témoigner que c'est vrai. Dominique aussi, qui a lu, il peut témoigner. Michou qui a lu et témoigne, il peut témoigner, elle peut témoigner. Tous ceux qui ici ont lu peuvent témoigner que c'est vrai. Il a donné des prophéties concernant l'histoire du monde entier jusqu'au moment où Jésus va tout remettre dans les mains de son Père. Ce livre, il a été critiqué, on a dit qu'il avait été écrit 3 siècles après Jésus-Christ et que c'est pour ça que les prophéties étaient très claires. Seulement voilà, ce livre on l'a trouvé, on en a trouvé des extraits dans les manuscrits de la Mer Morte et ils ont été identifiés comme ayant été écrits 3 siècles avant Jésus-Christ. C'était des copies de copies de copies du livre d'Enoch qui était écrit il y a 5300 ans. Et les prophéties qui concernent notre époque, le plan de Dieu, il est minutieusement écrit là. Et il est question, alors c'est sous forme, c'est magnifique, c'est sous forme de symboles, mais c'est des symboles très clairs, n'est-ce pas, les frères et sœurs qui l'ont lu, n'est-ce pas, Simone, c'est clair. Quand on connaît les Écritures, quand on connaît la valeur des symboles dans les Écritures, alors on sait ce que Enoch veut dire et on s'aperçoit que tout ce qu'il a prophétisé, pour notre époque, c'est là. Il le dit, c'est là, c'est écrit. Et ce livre, il était écrit il y a 5300 ans pour la dernière génération. Et le jour où Israël a été reconnu par l'État, proclamé par l'ONU, proclamé comme État, ce jour-là, les manuscrits de la Mer Morte ont été présentés au monde. C'est-à-dire que quand Israël est redevenu une nation, le jour même, les Écritures saintes d'Israël sont sorties de terre. Alléluia! Ça, c'est formidable. Et Dieu nous a donné le privilège de pouvoir l'étudier et il m'a inspiré par son ange des choses pour pouvoir faire comprendre aux gens de notre génération la puissance de Dieu et ses merveilles. Mais savoir que ça existe, c'est une chose. Croire que ça existe, c'est une chose. Mais connaître. Connaître. Le jour vient où nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous dit l'apôtre Paul. Pour le moment, ce que nous connaissons de Dieu, c'est là dans les Écritures. Et Dieu, aujourd'hui, a permis que ce livre sorte de terre. Il avait été tenu caché, le mot apocryphe signifie tenu caché, il avait été tenu caché, mais maintenant Dieu a permis qu'il remonte à la surface afin que nous prenions connaissance de ces choses et que nous puissions voir le plan de Dieu magnifique. Le plan, tout est écrit, tout cela était écrit. Pourquoi Dieu nous l'a donné à nous, c'est un mystère. Quand Jésus était dans la condition mortelle, il avait son chemin à lui, c'est-à-dire sa vie, sa destinée à parcourir. Mais pas seulement. Sa destination n'était pas que la sienne. Pourquoi ? Parce que c'était aussi la nôtre. Parce que quand il était sur terre, il était déjà notre chemin. C'est-à-dire qu'il nous montrait le chemin qui conduit à Dieu. Comment se comporter sur le chemin qui conduit à Dieu ? Quelle est la direction qui conduit à Dieu ? Il n'y en a pas d'autre. Il le précise, il dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Puis on oublie de dire qu'après, tout de suite après, il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il y en a qui disent « Oh, c'est de l'orgueil ». Jean 14, 10, pour moi, c'est ça la parole de Dieu. Il a fait une chose que nous ne pourrons jamais faire, ça c'est certain. Et il ne nous demande pas de le faire. Il a payé notre dette afin que nous ayons accès au passage. C'est en cela qu'il est notre Pâques. Le mot Pâques, ça se dit Pessah, ça veut dire passage, ça veut dire le chemin. Il est notre chemin. Il a ouvert l'accès au passage pour que nous puissions sortir de l'esclavage où nous étions. Dans l'Égypte représente l'esclavage où nous étions dans le péché, nous étions esclaves, et puis il nous a fait sortir de là. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, tout ça c'est la vérité, et nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous ne sommes plus en Égypte, nous ne sommes plus, j'ai rien contre les Égyptiens, c'est un très beau pays, hein, mais symboliquement, l'Égypte ça représente l'esclavage, on le sait à cause symboliquement de la symbolique biblique. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes sortis de là. On est en ce moment dans un désert, on est dans un désert en route, en chemin vers le royaume des cieux. Il est notre lumière divine qui nous éclaire, qui éclaire tout, qui imprègne tout, qui nous réchauffe. Cette lumière, elle éclaire notre esprit, mes frères et sœurs. Elle éclaire aussi notre âme, notre intelligence, au sujet de ce qui concerne le Père, dans ce que notre âme peut saisir, peut comprendre, parce qu'elle est bien limitée, notre pauvre âme. Alors, en le regardant agir dans les évangiles, en le regardant agir, en écoutant Jésus parler dans les évangiles, eh bien, nous savons ce que c'est que son royaume, nous savons comment y entrer, nous savons comment nous allons devoir nous y comporter, et la vérité qui nous enseigne, la vérité qui nous éclaire, elle nous éclaire afin que nous réalisions que nous devons déjà nous efforcer de nous comporter comme si déjà nous étions dans le royaume à venir. Comme lui s'est comporté dans sa condition mortelle. Il l'a fait, il s'est comporté sur la terre comme il se comporte au ciel. C'est-à-dire justement avec cet amour, cette foi absolue, cette bonté, cette fermeté, cette sainteté, et toutes ces choses. Amen. Et alors nous prenons connaissance de ces choses, et ainsi en prenant connaissance de ces choses, nous ne sommes plus dans les ténèbres, parce qu'on prend connaissance. C'est plus simplement, oui, je crois que la parole de la Bible est la parole de Dieu. Combien disent ça, mais ne la lisent jamais? S'ils croyaient que c'est vraiment la parole de Dieu, ils la liraient. Moi, je suis fan de Sylvie Vartan. Et tout ce qui sort sur Sylvie Vartan, j'achète, je veux savoir. Vous allez dire, Michel, qu'est-ce qu'il est charnel? Oui, je suis charnel. Oui, vous savez bien que je suis charnel. Et je ne vous demande même pas pardon d'être charnel. C'est juste pour vous faire comprendre que quand on aime, on cherche à connaître. Non ? Ben oui. Et quand on aime Dieu, on cherche à connaître. J'aime pas lire. J'aime pas. Ah bon? Il devient pour nous, qui le connaissons, véritablement la lumière du monde. Nous avons la lumière de la vie, Jean 8, 12. Il est la lumière du monde, mais il n'éclaire pas grand monde, parce que pour pouvoir être éclairé par lui, encore faut-il sonder. Pas simplement, oui, je crois, oui, je crois, ça c'était Mireille Mathieu. Ne pas vouloir croire ce qui est écrit, c'est une malhonnêteté. Mais croire n'est pas suffisant. Il faut connaître Dieu, le Père, que Jésus révèle dans la parole. Oui, alors moi je crois, mais j'ai ma propre idée au sujet de... Quoi ? Tu as ta propre idée ? Jésus est venu pour nous faire connaître le Père, et toi tu dis, non, j'ai pas besoin de lire ça, j'ai ma propre idée au sujet de... Mais attends, c'est dingue, non ? Ceux qui connaissent Dieu ont la vie. C'est pourquoi je dis c'est vital. C'est vital. Ceux qui ne veulent pas croire, eux, ils ont choisi la mort. Ils ne veulent pas croire. Ils disent, je ne peux pas. C'est pas vrai. Ils ne veulent pas. C'est pas vrai qu'on ne peut pas. Ils ne veulent pas. Et ceux qui se bornent à croire, ben, ils sont guère mieux que les démons. Ah bon? Eh oui, mes frères et sœurs, les démons croyaient en Dieu et ils tremblent. C'est Jacques qui nous dit ça, Jacques 2, 19. Il dit précisément, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Une autre traduction que j'aime beaucoup, c'est celle de notre frère Alfred Kuhn, le Suisse, qui dit « Tu veux savoir, espèce de tête creuse, que la foi sans les œuvres est vaine, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Tête creuse. Frères et sœurs, ce n'est pas suffisant pour nous de dire que nous croyons en Dieu. Ce n'est pas suffisant. Nous devons vivre notre vie de façon à être reconnus comme des gens qui vivent avec lui. Ça, c'est autre chose. L'aimer comme il nous aime, aimer comme il aime, vivre comme il veut, connaître sa doctrine. Jésus connaissait sa doctrine. Il y a une doctrine de Dieu. Il y a une doctrine de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas contre l'endoctrinement. La doctrine, Paul en parle, Jean en parle. Là, il y a une doctrine, elle est là. C'est à nous de connaître. Jésus connaissait. Et nous devons connaître. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'amour, ce n'est pas seulement des actes de bonté qu'on fait comme ça, mais l'amour, c'est un attribut du caractère. Alors, approchons-nous de lui sur le chemin, et si tu t'approches de lui sur le chemin, il te donnera un cœur sage et intelligent. C'est la promesse, elle se trouve dans 1 Roi 3:12. Si tu t'approches, il te donnera un cœur sage et intelligent. Il faut s'approcher. Comment ? Ben oui, dans la prière, bien sûr. Il y a des gens qui adorent prier, mais ils n'aiment pas lire. Mais efforce ton âme, cette espèce de vieille paresseuse, cette espèce de chose au cou raide qui dit « j'aime pas ». Efforce-la, contrains-la, oblige-la à lire la Bible. Dis-lui « mon âme, je t'ordonne de lire maintenant, et puis tu fermes ta gueule, tu arrêtes de dire que t'aimes pas lire. D'accord ? Faut lui parler avec autorité. Non, mais c'est quoi ce cirque ? J'aime pas lire. Ben, quand on n'aimait pas lire, quand on était des païens, c'était pas trop grave, parce que ce qu'il y a à lire dans le monde, c'est pas tellement génial. Bon, il y a des très bons livres, hein ? Il y a Tintin, il y a Oui Oui, des formidables, hein ? Il y a des images. La Bible, il n'y a pas d'image. Mais quand on est chrétien, Dieu a choisi de nous donner une écriture pour témoignage. Alors il faut lire. Et puis ça va venir. Il va vous donner un cœur sage et intelligent. Pour que, à ton tour, tu deviennes toi aussi le chemin. Le chemin des autres. Paul, il dit ça à Timothée. Il dit, il faut que tu sois un modèle pour les autres, pour les fidèles. Jésus était le modèle, maintenant il faut que toi tu sois le modèle. Paul dit, moi je suis déjà un modèle. Imite-moi, il dit Paul. Et puis sois dans la capacité, dans la possibilité d'être imité par les autres. C'est aussi notre responsabilité. C'est aussi notre responsabilité. Comme Jésus, on a une destinée qui est personnelle, c'est notre histoire, c'est ce qu'on a à faire. Tout le monde n'a pas à faire les mêmes choses. Je vous ai parlé l'autre jour des mines et des talents. On n'a pas tous les mêmes choses à faire. Mais une chose est certaine, si nous avons notre destinée, elle n'est pas seulement à nous, elle est aussi une destinée qui doit être le modèle pour les autres. Pourquoi est-ce que les autres ont besoin de modèles? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de modèles? Mais parce que le chemin, il n'est pas toujours facile. Le chemin, il n'est pas toujours facile. Le chemin que Jésus a parcouru n'était pas facile. C'était pas facile, mais c'était nécessaire. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Quand quelque chose de difficile t'arrive, plutôt que de te plaindre, dis, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ça va te donner du courage. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Nos chemins sont parfois difficiles, mais c'est nécessaire. Les difficultés rencontrées nous aident à repousser nos limites. Si j'avais pas eu les difficultés que j'ai eues dans ma vie, eh ben, je serais toujours le petit Michel Janton que Joanne aimait bien parce que je le faisais tellement rire. Hein, j'avais 20 ans, c'était super, c'était génial, c'était rigolo. J'aimais Dieu, je connaissais Dieu, mais j'étais pas mûr. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de mûrir, de grandir. Et les difficultés que nous avons, qui sont les choses, c'est des choses difficiles, mais elles sont nécessaires parce qu'elles nous aident à grandir pour pouvoir atteindre notre but éternel, mûri! Et non pas, simplement comme des gamins. Il y aura des gamins dans le royaume de Dieu. Moi, je veux pas être un gamin éternel. Je veux pouvoir prendre des responsabilités de ville, de district. Pas vous? Mais bien sûr, j'espère du moins.
Oh non, moi, je préfère avoir juste un strapontin au fond du ciel. Pourvu que je sois dans le ciel, juste un strapontin, ça me suffit. Moi, il y en a qui m'ont dit ça. Mais l'éternité sur un strapontin.
C'est juste une image. C'est pas en réfléchissant avec votre âme que vous pouvez connaître Dieu. On peut rien connaître de Dieu en réfléchissant avec notre âme. On peut rien. Avec notre âme, je vais vous dire ce qu'on peut faire avec notre âme au sujet de Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente. Avec votre âme, vous pouvez juste discerner la puissance éternelle et la divinité en observant la nature. Romains 1, 20. Voilà tout ce que votre âme peut faire. C'est discerner la puissance divine, la sagesse divine en observant la nature. Puis dire, ah ouais, il y a quand même un Dieu. Voilà ce que votre âme est capable de faire. Mais à partir de là, ben c'est fini. À partir de là, il faut que vous croyiez l'incroyable. Que vous acceptiez, que vous compreniez l'incroyable, l'incompréhensible. Et quand vous avez ainsi soumis votre âme, votre raison, quand vous l'avez soumise en disant « moi je crois même si j'arrive pas à comprendre », quand vous avez réussi à soumettre votre raison, alors vous pouvez parvenir à la connaissance de Dieu, mais pas seulement de Dieu, mais aussi des trésors secrets, des trésors cachés, de la sagesse et de la connaissance. C'est ce que Paul nous dit. Celui qui soumet sa raison, qui décide de croire même l'incompréhensible, ce qui dépasse son intelligence, celui-là manifeste l'amour et se trouve enrichi d'une pleine connaissance de Dieu et de Christ. Et en Christ sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors quand on connaît Dieu par Jésus-Christ, on connaît Jésus-Christ et en Christ sont cachés des trésors de sagesse et de connaissance. Colossiens 2, 2, 3. Ah, croire, c'est pas suffisant. La croyance, c'est le fruit de l'âme, et l'âme est très limitée. Mais Dieu est esprit, cherche les adorateurs en esprit, en vérité, on peut pas adorer en esprit ce qu'on connaît pas. Et Dieu est esprit. Alors, c'est par l'esprit que nous devons connaître Dieu. Pas seulement avec l'âme. Quand je dis connaître Dieu, c'est connaître non seulement sa personne, mais ses trésors, dans lesquels se trouvent des choses sacrées, des choses d'une sagesse magnifique. Quand nous le connaissons, alors il nous ouvre ce trésor, sinon il ne nous l'ouvre pas. Il ne nous l'ouvre pas. Et dans ces trésors sont cachées toutes sortes de sagesses, toutes sortes de connaissances des choses que les gens ne connaissent pas. Ah oui, ah ben non, ah bon, ah ben oui, c'est écrit, oui, mais bon, c'est plus pour aujourd'hui.
où les apôtres se sont trompés. Ah oui, mais on me l'a dit, hein. Oh, les ados. Non, mais ils se sont trompés, les apôtres. C'était pas ça. Après, voilà, ben, ils ont arrêté de vivre en communauté. etc., etc. C'est pas seulement pour la vie communautaire, c'est pour tout. Ils croient pas vraiment que c'est la parole de Dieu. Ils croient pas. Les mystères, Dieu ouvre le couvercle du trésor pour que nous puissions les comprendre. Quand on a dit à notre raison, maintenant tu te soumets. Croire et savoir, ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin sur le chemin. C'est un chemin, ce n'est pas une place publique où on reste là en attendant que ça se passe. C'est un chemin. Un chemin, ça veut dire qu'il y a un endroit où on part, il y a un endroit où on marche, puis un endroit où on arrive. Il faut progresser. Sinon, eh ben, vous allez vous priver vous priver de l'accès à un domaine de connaissance qui est infiniment plus élevé. Vous serez comme certains qu'on connaît qui disent « Mais le mal atteint souvent le juste, mais tel année l'on délivre toujours, mais comment ça se fait que j'ai toujours mal ?» Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que votre âme, ce que votre intelligence peut admettre, c'est bien, mais il y a des choses infiniment plus élevées que ça. Ayant accès personnellement, vous pourrez alors, comme Jésus, être un modèle pour ouvrir le chemin à ceux qui cherchent, à ceux qui souffrent, parce qu'ils ne connaissent pas. Les gens qui souffrent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Lisez la Bible, qu'est-ce que vous voyez ? Quand le peuple était fidèle, ça marchait bien. Quand il n'était pas fidèle, ça ne marchait pas bien. Vous savez que je suis un homme curieux. Depuis un an, je lis aussi le livre de Mormon. Les Mormons prétendent que ce livre-là, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Et moi, comme je ne veux pas mourir idiot, ben je le lis. Je ne lis pas que le livre de Mormon. Je lis aussi Tintin, le capitaine Haddock. Je lis Mickey, je lis Bernard Werber, je lis toutes sortes de bouquins. Et je lis aussi le livre de Mormon. Qu'est-ce que je lis dans le livre de Mormon ? La même chose. Quand le peuple marche bien, tout va bien. Quand le peuple marche mal, tout va mal. C'est toujours les mêmes histoires. Et vous croyez que l'histoire a changé aujourd'hui ? Non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Pour attirer la bénédiction, il faut dire à notre raison, maintenant tu te soumets au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et à partir de là, oh, alors Dieu ouvre son trésor et tu vas pouvoir regarder dedans et tu vas pouvoir prendre ce qu'il te faut. Que Dieu vienne en aide à chacun d'entre nous. Amen. Merci Jésus de bénir ceux qui regardent cette émission télé, de bénir ceux qui écoutent Internet, de bénir mes frères et sœurs ici, de nous garder tous dans ta paix pour que nous puissions progresser, aller de l'avant, être à notre tour des modèles pour tous ceux qui sont encore dans les ténèbres ou qui sont hésitants sur le chemin ou qui sont assis sur une borne se demandant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. » Merci Seigneur de nous aider à être clairs pour que nous puissions illuminer clairement ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient. Que ton nom soit béni Jésus. Merci parce que tu pardonnes nos fautes et tu permets que nous puissions être des gens qui marchons de progrès en progrès. Que ton nom soit béni Jésus. Amen. Amen.